France Culture.
Les nuits de France Culture.
Seriez-vous capable, chers auditeurs, de dire chez vous, de prononcer à voix haute le titre du livre culte de Nick Cohn, célébrissime critique rock britannique? Ce titre, vous le connaissez forcément, il est issu des paroles de la chanson Tutti Frutti de Little Richard. Wap-bap-loup-bap-lop-bap-boum. Pardon pour cette prononciation forcément trop française et sans doute fort peu musicale. Dans cette émission, Thomas Baumgartner, pourtant fin connaisseur de la musique rock américaine, semble avoir lui aussi quelques difficultés pour prononcer ce titre emblématique, comme Nick Cohn le lui fait d'ailleurs remarquer sur le ton de la taquinerie. Cet ouvrage, publié à la fin des années 1960, est considéré comme le premier livre de rock critique ou de critique rock proprement dit. Nick Cohn l'écrit à seulement 22 ans et y évoque déjà la fin du rock, ou plutôt la fin d'un certain esprit du rock. Ce texte fondateur en annonce bien d'autres autour de la musique, de toutes les musiques, de la disco au hip-hop, défrichant chaque fois de nouveaux territoires sonores et, à travers la musique, de nouveaux territoires tout court. Dans cette émission, le journaliste et écrivain revient dans les grandes longueurs sur les moments marquants de sa vie et de son œuvre, au micro de Thomas Baumgartner et accompagné du comédien Stanley Weber et du musicien électro Benjamin Diamond. Ensemble, ils interprètent un extrait de leur performance commune, The Noise from the Streets. Le bruit des rues, en français, c'est le titre de ce numéro de l'Atelier du son, émission diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 mai 2014.
Know what you was dealing with from day one. I'm not a little boy, yeah, I'm young with a lot of old Vic ways. It's only been a few days, and so you say you love me in a married way. Yeah, okay, I've been in several type of relationships, and I feel like Joe too. Love don't make no sense. It's all on me if I want this thing to work out. I know your goal is to try to trap, but that's what you heard about. I ain't been home in a few days, cause you be trapped. I let you get your mind right, lying with the kick and the scratches. I'm on parole, I can't be riding for domestic violence. So I stay my distance, really it's two ways to beat the pussy up. And I'm about my business.
Un son lourd, dense, du rap pour commencer ce soir l'émission. On s'aventure là où on ne nous attend pas et c'est un peu comme Nick Cohn, notre invité de ce soir, qui n'a pas cessé, à différents endroits de la planète, et pas seulement la planète musicale, de se rendre où on ne l'appelait pas, voire où on aurait a priori préféré qu'il n'aille pas. Comme par exemple quand il raconte le rap de la Nouvelle-Orléans dans son livre Trixa, qui s'ouvre par la mort de Soulia Slim, un rappeur de 26 ans qui venait de signer Love or Love Me Not. C'était en 2003 et c'est ce qu'on entend. Penser contre soi, jouer contre sa pente naturelle et écrire, surtout écrire tout ça.
Yeah, I'm coming fuck, but that's about the only thing I can do. You notice how I put the true in front of player. The world revolves around gang, that's why I take it there. Call forgiveness, but I swear I think I never change. And I'm still stuck on it. Oh, saying no pain, no gain. What said me not the big flame, just say you understand. I'm a man, so I got to keep the upper hand. Know what I'm saying? Do you love me or you love me?
Penser contre soi, jouer contre sa pente naturelle et écrire, surtout écrire tout ça, voilà une des caractéristiques du travail de notre invité de ce soir, Nick Cohn, qui, soit dit en passant, est un des inventeurs d'une écriture moderne sur la musique, ou comment dire, la société et l'histoire, à travers sa musique. Bonsoir Nick Cohn.
Bonsoir.
Merci d'être avec nous ce soir dans l'atelier du son. Est-ce que c'est important d'entrer là où on ne vous attend pas?
It's a challenge. I wouldn't say it's a problem.
C'est un défi. Je dirais pas que c'est un problème.
And as you get older,
Mais à mesure que l'on avance en âge, le défi s'améliore, il devient plus riche. En effet, en vieillissant, on se sent plus à l'aise et on va à des endroits où vous êtes inconnu, peu importe ce que vous avez écrit, vous n'avez pas d'identité et il faut tout prouver à tout le monde comme si on avait à nouveau 18 ans.
Ça, c'est important apparemment pour vous de voir à nouveau tout prouver, mais vous dites aller à des endroits où on dit inconnu, c'est une chose, mais des endroits aussi où vous n'êtes pas le bienvenu, ça c'est une chose que vous faites aussi. Aller là où vous n'êtes non seulement pas attendu, mais où on ne souhaite pas que vous soyez.
Well, yes, obviously in New Orleans, when I was doing the work with the rappers.
À l'évidence, à la Nouvelle-Orléans, quand je travaillais avec les rappeurs, c'est vrai qu'il s'agissait là d'un territoire où les blancs ne vont pas.
It was very difficult.
Ça s'est avéré difficile, très difficile.
But I have to say that not welcome.
Néanmoins,
I ran into trouble.
Je ne suis pas toujours le bienvenu, j'ai eu des problèmes, mais il y a d'autres qui ont réagi en disant « Mais c'est intéressant, qu'est-ce qu'il fait là, ce vieux blanc ? On va voir de quoi il s'agit, ce qu'il a à dire, ce qu'il a à faire. » Puis on m'a posé des questions sur le rap, et il se trouve que je sais une chose ou deux sur le rap. Je connaissais Manier Fresh, Juvenile, Soulja Slim. Je connaissais ces gens-là, et puis ils se sont dit « Ah bah tiens, ce vieux blanc, il est peut-être pas si mal que ça. »
Oui, alors effectivement, Nick Cohn, ce que vous racontez là, c'est le départ de ce livre Trixta qui est paru, je crois, en 2006 en France aux éditions de l'Olivier, où vous racontez que vous arrivez dans cette ville de la Nouvelle-Orléans que vous adorez depuis des années, et vous allez vers ce monde du rap qui, a priori, n'est pas le vôtre. Et vous commencez à produire et à être en contact avec beaucoup de rappeurs. Vous ouvrez justement avec Soulja Slim, celui qui a ouvert l'émission là à l'instant, qui est tué en 2003, voilà, à l'âge de 26 ans. Mais on peut faire un parallèle avec le premier livre marquant que vous avez écrit à l'âge de 22 ans, qui est Wop Bop Lubop Lop Bam Boom. Ce livre qui était le premier livre de rock critique, vous l'avez écrit en 1968. Et vous racontez dans ce livre que vous êtes allé dans un endroit, un des points de départ de votre passion pour la musique et en particulier pour le rock, c'est quand vous étiez à Derry, dans votre enfance, en Irlande du Nord. Vous êtes allé dans un quartier qui ne vous attendait pas. Là encore, un quartier où vous n'étiez pas, non seulement vous étiez inconnu, évidemment, mais où vous n'étiez pas le bienvenu, c'était le quartier catholique. Et ça, ce mouvement-là, vous l'avez depuis le départ, en fait.
Well, I have to say, I haven't been doing it all the time.
Je ne fais pas que ça, depuis mon enfance. De temps en temps, je vais là où on ne m'attend pas.
I think what it is, it's a deep fascination.
En fait, je pense qu'il s'agit d'une fascination que j'ai.
Guy who sees himself as essentially outside.
Parce que je me considère comme quelqu'un qui est à l'extérieur et je regarde les gens qui font partie d'une bande dont je ne ferai jamais partie. Et je me dis, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui est à l'œuvre dans ce monde, dans cet univers? Est-ce que mon imagination me permettrait de franchir le pas, me mettre dans leur peau, de vivre à travers eux? Donc, c'est un très bon parallèle que vous faites avec Wobop, Lubop, Lop, Bam, Boom, quand j'avais 11 ans, je crois.
New Orleans, which I'd been going to New Orleans for 40 years.
Ça fait 40 ans que je vais à la Nouvelle-Orléans et au bout d'un moment, on se retrouve dans les mêmes dispositions, on a les mêmes amis, puis un beau jour, je suis dans la rue et puis il y a un gamin qui me crache sur les chaussures.
Ça
me rend furieux, je le suis évidemment et je vais là où je ne devais pas aller et puis tout à coup je me retrouve dans un territoire inconnu, j'ai franchi le pas de trop, au-delà de la falaise, et dans ce territoire inconnu j'ai eu une expérience dont je ne pouvais plus me passer. Le rap s'appelle Bounce à la Nouvelle-Orléans. Et c'est devenu pour moi, c'est devenu ma vie pendant 4 ans.
Et
imaginez le défi pour un vieux blanc comme moi que de produire des albums de bounce.
Donc c'est
comme je pouvais être âgé de 60 ans, mon véritable âge à l'époque, et puis me replonger dans mon adolescence vers l'âge de 16 ans par exemple.
C'est intéressant ce que vous disiez à l'instant sur le fait de se sentir étranger, étranger, extérieur au groupe et curieux du groupe qu'on peut avoir en face de soi. Je crois que vous dites que vous vous sentez globalement souvent étranger. Vous, né à Londres, élevé en Irlande du Nord, vous dites quelque part juif, sud-africain, allemand, russe, anglo-irlandais, pris dans cette guerre en Irlande entre catholiques et protestants. Voilà une manière d'être, de se sentir étranger au départ. Mais justement, ce livre, Trixta, qui date donc de 2006, où vous parlez de cette vie que vous avez eue à la Nouvelle-Orléans, c'est aussi une expérience, non seulement de l'étrangeté, mais de se confronter au racisme, et pas seulement celui des autres, le vôtre, supposé en tout cas.
Yes, well, it's funny that you should pick that quote because.
Oui, c'est intéressant que vous ayez choisi cette citation-là, parce que j'allais vous répondre précisément cela. C'est cela qui constitue, en effet, le point de départ de toutes ces explorations. Je n'appartiens à nulle part. Je suis un tel mélange qu'en fait, je n'existe pas. Donc, c'est une limite, certes, mais c'est aussi une source de liberté.
Et
dans tout ce que je fais, il y a un paradoxe central. Il y a la liberté dans le danger, et alors que dans la sécurité, il y a la prison. Pour revenir à votre question maintenant, le racisme. Toute ma vie, j'ai pensé que je n'étais pas raciste, que je ne souffrais pas de racisme. Comment faire la différence? Mais à une époque, un jour, à la Nouvelle-Orléans, quand je cavalais après ce petit gamin qui m'avait craché dessus, je me suis lancé dans un quartier défavorisé et tout à coup, je me suis trouvé encerclé par quatre ou cinq types. Et je ne pouvais plus ni avancer ni reculer. Donc j'étais pris au piège. Et puis au moment décisif, un autobus est arrivé au coin de la rue. Donc il y a eu une dispersion et puis j'ai pu donc partir de là. Mais par la suite, je me suis rendu compte que la peur que j'ai éprouvée à ce moment-là comportait un certain racisme. Si j'avais été encerclé par des types blancs, peut-être que je me serais senti moins mal à l'aise, disons. J'aurais peut-être pu savoir quoi faire. Et je me suis dit, c'est impossible que j'éprouve ce racisme. Mais pourtant, je l'ai bien ressenti, ça. Et dans toute cette aventure de Trixta, j'explique comment je me confronte à ce racisme que j'ai découvert en moi-même, et c'est évidemment l'histoire de l'Amérique. On ne peut pas raconter quelque histoire que ce soit aux États-Unis sans faire référence au racisme.
Vous êtes un historien, et en quelque sorte un historien du présent. On a l'impression que vos livres, que ce soit Wabop, Aloubop, Alam Bamboum, ou Trixta, ou le livre Un archi au Royaume-Uni, en anglais Yes, We Have No, sont des livres d'histoire au présent, captant les dernières traces, en particulier les deux premiers, les dernières traces de quelque chose en train de se passer, mais dont vous pressentez soit la transformation, soit la disparition.
It's a complex question.
Voilà une question complexe.
For me, in a sense, there is no
d'une certaine façon,
present tense.
Le présent n'existe pas.
What we live in is
ce dans quoi nous vivons, c'est un moment qui devient instantanément le passé. En l'espace d'une nanoseconde, ça bascule. Moi, je vis dans le passé immédiat d'il y a une seconde. Donc, d'une certaine façon, les sujets dont je traite viennent de se passer. Qu'est-ce qui s'est passé il y a une minute, il y a un an, il y a 10 ans? C'est un petit peu comme le passé et le présent qui se mêlent. Le passé du présent, si vous voulez. Et l'ironie de tout cela, c'est que même quand j'écrivais ce livre-là, qu'il faut bien prononcer, dit Nick Cohn, même à l'âge de 22 ans, quand j'ai écrit ce livre, j'avais déjà compris que le moment était évanescent. que le présent était passé, que la grande explosion avait déjà eu lieu. Et là, je vous parle d'une époque qui était 1968. Et il s'est avéré que j'avais raison. J'ai souvent tort, hein, mais en l'occurrence, j'avais raison. Et il y a eu une explosion, l'explosion du rock'n'roll. Et on sent encore tout le dynamisme, bien qu'à l'époque, les critiques étaient furieux contre moi. Ils disaient, mais comment peux-tu dire ça? C'est le plus grand mouvement de l'histoire de l'humanité. Moi, je dis, non, c'est fini, c'est dans le passé déjà.
Oui, et en faisant ça d'ailleurs, Nico, vous avez saisi quelque chose qui est de l'ordre de, maintenant, la mythologie du rock, de vivre le rock comme quelque chose en train de se terminer, voire déjà terminé, attendant une ultime renaissance après un passage moribond. Voilà, et c'est ce qu'a vécu le punk un peu plus tard. Quand vous l'avez écrit, Jim Morrison n'était pas mort, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Elvis n'était pas mort, mais vous pressentiez cette fin-là, vous l'avez dit, mais vous faites quelques paris, en tout cas vous dites tout le bien que vous pensez de certains groupes dans ce livre, écrit donc à l'âge de 22 ans, et en particulier à propos des Who, vos amis les Who, vous disiez beaucoup de bonnes choses et la suite vous a donné raison. En particulier, vous parlez d'un concert, celui du live à Leeds, peut-être le meilleur disque pop du genre, vous dites, de cet enregistrement. Et sur ce disque, on trouve évidemment My Generation. People try to put us down, just because we talk about my generation. They say you look awful, talk about my generation. I might die before I get old, talk about my generation. It's my generation, it's my generation, baby. I don't you all fade away.
I'm
débat autour de la table de l'Atelier du Son, parce qu'à l'écoute de ce morceau, Nick Cohn, mais aussi Benjamin Diamond qui est là autour de la table, on parlera avec vous un petit peu tout à l'heure, mais à l'écoute, vous nous dites, vous, on va vous poser des questions à l'instant.
Oui, je me demandais quelle était cette version de Tommy en fait, si c'était la version originale ou si c'était un live, voilà.
Alors on nous a certifié que c'était live à Leeds, et pourtant peut-être pas Nick Cohn d'après vous, vous dites, hein, vous l'écoutez depuis des années.
My guess would be it's live at Leeds, but I have to be honest. It's certainly 30 years and maybe longer since I listened to live at Leeds.
Je n'ai pas entendu live at Leeds depuis une bonne trentaine d'années. Donc,
a good example of when the moment is over, the past present.
Je disais que le présent et le passé se mêlent. Hein, le présent est déjà passé.
Oui, alors dans le livre, a woobop, a loobop, a la bamboom. Et j'ai répété pour pouvoir le dire d'un seul coup. Et je me demande si vous n'avez pas fait exprès de prendre ce titre qui n'était pas le titre de départ pour éviter qu'on en parle trop. Ça, c'est une question que je vous donne au passage. Est-ce que ce titre-là est fait pour qu'on évite d'en parler trop? Au départ, ça s'appelait Rock from the Beginning.
The reasons for the titles was...
La raison qui explique l'existence de ce titre, really, c'est qu'il n'y avait pas eu de livre sérieux sur la pop ou le rock à l'époque. Et les éditeurs ont dit, mais vous rigolez, non, ça ne va pas le faire, ce titre-là. Donc ils ont dit la pop depuis le début, le rock depuis le début. Puis lorsque le livre a commencé à faire parler de lui, on a pu l'appeler Wobopoloubop, Lob Bam Boom.
Mais est-ce que, Nikon, est-ce que c'est devenu un fardeau pour vous, ce livre écrit à l'âge de 22 ans, c'est très jeune, ça a marqué beaucoup son temps, on dit que c'est le livre fondateur de la rock critique, ce qui n'est quand même pas rien. Et en même temps, j'imagine quand on fait quelque chose à 22 ans, on aime bien aller de l'avant pour faire d'autres choses. Et vous avez fait énormément d'autres choses. On en a parlé déjà depuis le début de cette émission. Est-ce qu'il a été un fardeau, ce livre, pour vous?
Well, I think that burden, it's a difficult thing.
Fardeau, c'est difficile. À chaque fois que l'on rencontre le succès, particulièrement quand on est jeune, très jeune, eh bien cela n'est pas sans créer de problèmes.
Et
dans ma vie, j'ai rencontré le succès. Et à chaque fois, il y a eu des problèmes parce que les gens s'attendent à ce que vous fassiez la même chose la fois suivante. Encore aujourd'hui, on me demande une mise à jour de Wobopoloubop. Mais non, c'est pas possible, parce que Wobopoloubop, c'est ancré dans une époque, à un moment donné. Donc, de temps en temps, je me dis, pourquoi les gens ne font-ils pas autant attention à un livre comme Trixta, dont moi je pense le plus grand bien.
Voilà.
Donc de temps en temps, oui, ça peut être un fardeau, mais fondamentalement, je suis très content d'avoir rencontré ce que j'ai rencontré. Et moi, tous mes succès, je les ai rencontrés au début, d'un seul coup.
Il y a un mot qui traverse quand même pas mal de vos écrits à travers les années Nick Cohn, c'est le mot d'authenticité. Et à propos des Who, par exemple, qu'on a écouté à l'instant, dans votre livre, dans Wobop, Aloubop, Aloubamboum, vous dites que c'est ça qui vous marque chez eux et qui fera leur valeur aussi. Mais quand vous parlez du rap de la Nouvelle-Orléans, c'est la même chose. En tout cas, il y a ce mot-là. Et quand vous traversez le Royaume-Uni dans Anarchie au Royaume-Uni, pour aller à la rencontre du pays, on a l'impression que c'est aussi quelque chose, cette authenticité, qui vous importe.
I have to answer that question by going outside writing and so on to life experience.
Pour répondre à cette question, je me place en dehors du domaine de l'écriture. Voyons un petit peu comment ça se passe dans la vie. Dans la vie, on va d'un endroit à l'autre, on rencontre une personne, puis une autre, et la plupart des expériences de la vie vous touchent en surface seulement. Puis, De temps en temps, dans le domaine de l'art, dans l'amour ou dans d'autres domaines de la vie, on a tout à coup une reconnaissance, comme un éclair de reconnaissance. Et on se dit, ah là, je reconnais, je sais de quoi il s'agit. Je ne sais pas exactement ce que c'est, mais au profond de moi-même, je sais de quoi il s'agit. Et c'est ça, l'authenticité. C'est une espèce d'éclair que je recherche. C'est un moment où je reconnaît quelque chose. Il s'agit de quelque chose dont on ignorait l'existence préalablement. Et on se dit, mais bon sang, c'est bien sûr, c'est ça.
Alors comment peut-on, Nick Cohn, parler, comme vous le faites, de l'authenticité et en même temps parler de ça ?
A place for us, somewhere a place for us, peace and quiet and an open hand wait for us somewhere. There's a time for us, a summer day, a time for us, time together with a time to spare, time to learn, time to care.
Oui, bon, parce que il se trouve que en lisant ce livre fondateur, donc Wop Bop, on va l'appeler comme ça maintenant. Évidemment, il y a plein de noms qui ont traversé les années, qui non seulement sont soit toujours sur scène, mais en tout cas leur nom reste dans les mémoires. Mais il y a un nom que je ne connaissais pas, et vous faites mention de ce nom-là souvent, comme dirait, comme il penserait, comme il dit, comme dirait PJ Proby. Et là, c'est PJ Proby qui chante. Et alors là, on est quand même dans, on pourrait presque dire, quand même, les antipodes de l'authenticité. Ou alors je me trompe.
For Proby, you have to start with a new category, the authentically inauthentic.
Autre catégorie, c'est
there is an authenticity,
l'authentique non authentique. Il est quand même authentique. L'authenticité du mélodrame, l'authenticité du cabotin.
There's something, although he's completely ridiculous,
il est totalement ridicule. Évidemment, ce qu'on vient d'entendre, c'est totalement ridicule. Mais c'est quand même magnifique, cette façon qu'il a de penser de lui-même, demi-dieu.
Et
évidemment, toute sa vie était comme ça. C'était pas simplement un costume qu'il en était. Il vivait ça au quotidien, tout le temps. PJ Proby. Moi, je reçois encore des cartes de vœux de PJ Proby. Et il est en pleine forme, hein. Et il reste lui-même. C'est toujours une carte de vœux du château Proby, vous voyez. Alors, en réalité, c'est un type qui n'a pas le sou. Hein. Et il aurait sûrement un petit studio minable, mais c'est quand même le château Proby pour lui.
Oui, oui, et puis il vous a inspiré un roman, c'est ça? Il vous a inspiré un roman?
I did, yes, I wrote a novel called I Am Still the Greatest, Says Johnny Angelo, which...
Je suis encore le plus grand depuis Johnny Angelo. C'est à propos de Proby, mais c'est pas tout à fait vrai quand même.
On pourrait dire
que je n'aurais pas écrit ce roman si je n'avais pas rencontré et si je ne connaissais pas PJ Proby. Ce roman traite de l'automythologie de PJ Proby à des niveaux qui lui étaient totalement insoupçonnés.
Alors Nick Cohn, je voudrais qu'on parle de ce livre, Yes, We Have No, qui est là comme un retour finalement. Là, il y a presque un voyage intérieur, même si vous êtes installé à New York depuis plusieurs années. À la fin des années 90, vous faites un... Alors, je sais pas, c'est peut-être bizarre de dire un voyage d'études, mais en tout cas, vous partez à la rencontre de vos compatriotes du Royaume-Uni. qui est comme une suite du rejet initial et le rock vous avez servi à ça, c'est-à-dire à rejeter une Angleterre à peine sortie de la guerre, très engoncée, dans une image très propre. Et là, tout d'un coup, vous vous rendez compte que, en fait, l'Angleterre a changé, le Royaume-Uni a changé, et que vous ne le connaissez pas.
Yes, that's a very good question. You just asked.
Oui, c'est une très bonne question. De tous les livres que j'ai écrits.
The English title is Anarchy in the UK. The English title is Yes, We Have No.
Yes, We Have No, dont le titre français est Anarchie au Royaume-Uni.
And it was something that caught me by surprise.
Est un livre qui m'a surpris.
In other words, living in America, as I have for many years,
je vis aux États-Unis depuis très longtemps. Et je retourne en Angleterre souvent, et puis un jour, je suis retourné au Royaume-Uni et je me suis trouvé face à un pays qui m'a surpris, parce que à mes yeux, il avait changé. J'ai toujours eu des problèmes avec la raideur des Anglais, le système de classe, le racisme anglais, et tout à coup, je me retrouve dans un pays bien plus libre, bien plus souple et accommodant. Et donc je me dis, bon ben je vais parcourir ce pays comme si je ne le connaissais pas du tout. Et pour essayer d'apprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça a changé. Et tout ce processus d'anarchie au Royaume-Uni a consisté à oublier ce que je pensais savoir pour apprendre quelque chose de nouveau qui aurait remplacé ce que je connaissais prétendument au préalable.
And of course, mixed in with that is
mélangé à cela, il y a des souvenirs du pays que je croyais avoir connu. Je me suis rendu dans des lieux où j'avais vécu à l'âge de 15 ou 16 ans, lorsque j'ai quitté l'Irlande du Nord, et je me suis aperçu que les choses avaient disparu et avaient été remplacées par quelque chose de beaucoup plus dynamique, de quelque chose de multiculturel. Et pour la première fois, bizarrement, je me suis senti chez moi. Bien qu'évidemment, je sois britannique et je ne me sois jamais senti chez moi au Royaume-Uni avant ce voyage.
Est-ce qu'un travail comme celui-ci, qui a 15 ans, une quinzaine d'années maintenant, change votre regard aujourd'hui, au quotidien, depuis l'écriture ? Est-ce que vous êtes attentif à ce Royaume-Uni que vous aviez, on va dire, négligé, en tout cas négligé de regarder pendant plusieurs années ? Et d'après vous, est-ce que ce Royaume-Uni que vous décrivez à la fois très vivant, très vivace, mais très pauvre aussi en particulier, dans une situation sociale très dure, c'est l'histoire du Royaume-Uni qui n'a pas suivi les années dorées du blairisme. Est-ce qu'aujourd'hui ça va mieux ? Est-ce que c'est pire ? Est-ce que ça vous intéresse toujours, Nick Cohn ?
In many ways, what I saw at the time in the late 90s.
À bien des égards, ce que j'ai vu à la fin des années 90 est devenu encore plus prégnant. L'un des thèmes de ce livre, c'est la fracture que Thatcher a provoquée entre les riches et les pauvres, mais aussi entre le nord et le sud du pays. Sous Blair, cette fracture s'est quelque peu estompée. Mais aujourd'hui, sous Cameron, ou alors son aréopage, c'est devenu encore plus criant. Par conséquent, quand je vais à Manchester pour rendre visite à ma fille, je vois une ville qui est à l'abandon. Pratiquement tous ses amis ont soit perdu leur emploi ou alors connu une baisse de leur niveau de vie, et au contraire, à Londres, tout va bien. C'est un mélange formidable de gens venus des quatre coins de la planète, mais Londres, ce n'est en rien représentatif du reste de l'Angleterre aujourd'hui. Tout cela me fascine. En effet, d'une certaine façon, le modèle que met en place David Cameron pour la Grande-Bretagne est un modèle qui ne pourra pas durer. C'est totalement intenable pour 50% de la population qui va se retrouver marginalisée, laissée pour compte. Donc c'est une véritable tragédie. Et cependant, il y a ce dynamisme, cette énergie qu'il n'y a jamais eu auparavant. Donc, ma perception de l'Angleterre, pays dans lequel je me rends assez souvent pour rendre visite à ma famille, entre autres choses, est une perception ambivalente. D'un côté, je suis terrorisé par la cruauté des mesures que prend le gouvernement de Cameron, mais par ailleurs, je dois dire que je sens l'énergie de Londres, alors que ce n'est pas le cas à New York. New York, pour moi, c'est sur le déclin. Il n'y avait plus d'énergie à New York.
L'énergie en Grande-Bretagne, où vous parlez, l'énergie du Royaume-Uni, est-ce qu'il y a une part de la musique dans cette énergie, d'après vous ?
Du point de vue de la musique, je dirais que l'Angleterre est face à un problème, étant donné la prééminence de la musique de boîte de nuit. La musique des boîtes, ce n'est pas une musique faite pour être écoutée chez soi pendant plus de 3 ou 6 mois. On ne va pas écouter de la musique de boîte de nuit pendant 5 ans, ce n'est pas envisageable chez soi. Donc, la musique sérieuse en Angleterre, il faut aller la chercher dans des groupes qui sont un petit peu vieux jeu, ils s'inspirent des Beatles. Moi, je n'aimais pas les Beatles en 64, c'est pas maintenant que je vais les aimer. Hein. Donc, musique anglaise, bon, je vais être honnête. Moi, j'écoute la musique classique anglaise de notre époque. Il y a des opéras formidables, il y a des compositeurs extraordinaires. Thomas Addis, par exemple. Et il y en a d'autres. À mesure que j'avance en âge, mes oreilles s'agrandissent, voyez. Donc, si le rock ou le rap ne me plaisent pas trop, ben, j'écoute de la musique classique. J'écoute ce qui fonctionne pour moi.
Il a des oreilles qui s'agrandissent, ça tombe bien. Un invité qui a les oreilles qui s'agrandissent dans l'atelier du son, c'est Nick Cohn, écrivain et critique de musique, homme de musique tout simplement, qui est notre invité, mais il n'est pas le seul. Il y a Xavier Combes qui traduit vos propos depuis tout à l'heure, mais pas seulement, il y a du monde autour de la table. On va faire connaissance dans un instant. Come on. Twist cabbage off instinct. Niggas don't think shit. Stink pink gators. My Detroit players. Tim's for my hooligans in Brooklyn. Dead right. If the head right. Biggie there. Air night. Papa been school since days of under rules. Never lose. Never choose to. Bruise cruise who. Do something to us. Talk go through us. Girls walk to us. Wanna do us. Screw us. Who us? Yeah, Papa and Pop. Close like Starsky and Hutch. Stick to clutch. Yeah, I squeeze 3 at your cherry M3. Bang every MC. Easily. Take that. Recently, niggas frontin' ain't saying nothing, so I just speak my peace, keep my peace. Cubans with the Jesus peace, with my peace, packing, asking who want it. They got it, nigga flaunt it. That Brooklyn bullshit, we on it.
Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so vain. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways.
I put O's and NY onto DKNY. Miami, DC, prefer Versace.
That's right.
All Philly hoes know it's Moschino. Every cutie with the booty for the coochie. Now who's the real dookie? Meaning who's really the shit? Them niggas ride dicks. Frank White push the 6 or the Lexus. LX, 4.5. Bulletproof glass tints if I want some ass. Gon' blast squeeze first. Ask questions last. That's how most of these so-called gangsters pass. At last, a nigga rapping about blunts and broads, tits and bras, menage a trois, sex and expensive cars. I still leave you on the pavement. Condo paid for, no car payment. At my arraignment, no for the plaintiff. Your daughter's tied up in the Brooklyn basement. Face it, not guilty. That's how I stay filthy. Richer than richer, so you niggas come and get me.
Come on.
Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's why they're broken, you're so famous. Biggie, 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 can't you see? Sometimes your words just hypnotize me. And I just love your flashy ways. Guess that's
Notorious B.I.G. Hypnotize, ce morceau pour illustrer une des choses qu'on trouve dans votre livre Nick Cohn, Electric Star, la violence évidemment. Notorious B.I.G. qui est mort dans une qui est mort par balle en 1997 si je me trompe pas, et qui a été une illustration de la guerre entre West Coast et East Coast des rappeurs. Je disais, vous n'êtes pas seul, on n'est pas seul autour de la table. Il y a deux autres invités, Stanley Weber, Benjamin Diamond. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Il faut dire que vous venez ensemble parce que nous enregistrons cette émission alors que vous êtes sur la route du festival Livre et Musique de Deauville, où vous allez donner une sorte de, alors je sais pas si on peut, comment on peut appeler ça, une performance, une tentative, un essai musical qui s'appelle The Noise from the Streets. Alors là on retombe sur un des fondamentaux de on s'est parlé depuis le début de l'émission, l'authenticité, la géographie, et puis, d'une certaine manière, l'exploration des rues, Nick Cohn.
Well, the idea for the Noise from the Streets was, I was approached by the festival in Deauville to do.
J'ai été contacté par le festival de Deauville pour faire quelque chose d'un petit peu plus traditionnel. Mais moi, je ne veux plus faire ces choses-là. Donc, je me suis gratté la tête et je me suis demandé ce que je pourrais faire si je devais faire un spectacle à propos de la musique qui n'a jamais été fait auparavant. Et je me suis rendu compte que la musique fonctionne de deux manières.
One is the obvious one, which is the world is
évidente. Le monde, c'est un enfer, c'est l'anarchie, c'est impossible d'y vivre. Il faut que je m'évade, je vais donc mettre mon casque, je vais fermer les yeux, je vais écouter de la musique et je serai en sécurité. Et je pourrai tout maîtriser, c'est moi qui n'ai qu'à appuyer sur les boutons pour choisir ce que je veux écouter, donc je me sens bien, je suis en sécurité.
So that's one side.
Ça, c'est une façon
the other side,
dont la musique nous interpelle. Mais il y a une autre façon qui me plaît davantage. C'est l'opposé.
I'm stuck here. I'm bored.
Je suis coincé ici. Je m'ennuie. Je suis dans la rue. Il manque quelque chose.
Suddenly,
tout à coup, il y a une voiture qui passe. Et dans la voiture, le conducteur et les passagers écoutent quelque chose de fantastique que je n'ai jamais entendu auparavant. De quoi s'agit-il? Et on suit cela. On entend quelque chose dans une pièce au loin. Qu'est-ce que c'est? On suit. Et ainsi de suite.
You follow, as I say, in I'm a rat,
and comme as in the rat of
Hamelin, the pipe pumper, pipe piper of Hamelin, and I'm a rat, and
avec,
I must follow.
Le joueur de flûte et le rat va donc suivre le joueur de flûte pour aller se noyer dans le fleuve. Donc voilà l'idée de base. Et à partir de là, je me suis dit, je ne vais pas simplement parler de ça. Je veux de la musique, je veux que ça soit un véritable spectacle, une mise en scène. Et c'est là qu'interviennent Stanley Weber et Benjamin Diamond. Parce que eux, ils vont prendre l'idée du vieil écrivain qui vous raconte son point de vue du monde et ils vont faire quelque chose sur scène, quelque chose de vivant.
Benjamin Diamond, figure de la French Touch, je ne sais pas si on dit encore French Touch, on peut parler de Stardust, ça c'est, voilà. Et puis votre, ce que vous faites aujourd'hui, sous votre nom, Benjamin Diamond. Nick Cohn, dites-vous que vous êtes un grand bloc intense, c'est écrit comme ça dans la version française, des trucs, etc., où vous apparaissez. C'est un compagnonnage de quelques années maintenant avec Nick Cohn, pour vous.
On s'est rencontrés il y a quelques années, ouais, j'apprécie cette phrase. Après, oui, effectivement, moi je suis quelqu'un qui réagit de manière très empirique. J'ai appris la musique comme ça et, et c'est, je voulais juste répondre tout à l'heure. Nick Cohn parlait de la musique de la rue, tout ça. C'est moi la première, une des premières. C'est pour ça que ça a fait une vraie résonance par rapport à ce projet. C'est qu'une des premières fois où j'ai entendu ma musique à la radio, c'était donc avec Stardust parce que c'était mon premier disque. Et en fait, j'étais chez moi et je l'ai entendu dans la rue.
Music sounds better with you.
Je l'ai entendu dans la rue. En fait, des types étaient arrêtés au feu en bas de chez moi.
Fenêtre ouverte.
Fenêtre ouverte. Ouais. Et écoutait, mais à fond dans dans la rue, quoi. Et donc j'ai eu un très très gros choc en fait. Ça m'a beaucoup impressionné. Et ça, c'est une vraie résonance à ce dont parle Nick sur ce projet là qu'on va essayer de traiter ensemble. On a déjà bossé ensemble il y a quelques années. C'était effectivement très intense. parce que il est venu à Paris et on a dû créer en fait une représentation qui a duré une seule soirée à la Cigale en 24 heures quoi. Mm-hmm. Donc ça a été pour moi un casse-tête mais j'aime bien être mis dans ce genre de situation aussi. Pour moi c'est des challenges que j'aime bien aborder en fait.
Entre autres points communs avec Nick Cohn, il y a un nom, celui de Guy Pellart,
ouais,
graphiste,
carrément,
dessinateur, peintre, qui a fait une de vos pochettes.
Ouais.
Et quand on dit Guy Pellart et Nick Cohn, c'est Rock Dreams, ce fameux livre de la mythologie rock, les mots de Nick Cohn, les dessins de Guy Pellart.
Bah en fait, ouais, c'est un livre qui appartenait à mon père quand j'étais enfant, mm-hmm, et qui m'a obsédé quand j'étais gamin. En fait, je pense que c'est un des livres qui m'a donné envie de faire de la musique.
Alors Stanley Weber, comment vous retrouvez-vous entre Nick Cohn et Benjamin Diamond pour ce The Noise from the Streets? Encore une fois, quand on écoute l'émission ce soir, au moment où tout le monde l'écoute, vous avez déjà été dans une situation de performance au festival à Deauville. Ce soir, dans l'extrait que vous allez donner dans quelques secondes, c'est une forme d'esquisse encore de ce qui a déjà eu lieu.
Oui, c'est-à-dire que c'est un petit peu particulier parce qu'on s'est rencontrés pour la première fois. Enfin, moi j'ai rencontré Benjamin et Nick pour la première fois cet après-midi. Maintenant, ça fait quand même 2 mois que j'ai eu la chance d'avoir le texte, ouais, en anglais. Et c'est un peu particulier. Je me suis retrouvé embarqué dans cette aventure. Je me sens aujourd'hui très chanceux d'être entouré par ces deux hommes et de partager cette aventure avec eux. Et je me suis retrouvé là par l'intermédiaire de Raphaël Rivière, qui s'occupe donc du festival, avec qui j'avais déjà travaillé avant sur des lectures pour un festival à Toulouse, et qui savait donc que je parlais anglais assez bien pour pouvoir travailler avec des anglophones. Et je crois que quand elle m'a approché, ils n'avaient pas encore d'idée précise de ce qu'allait être la performance. Elle savait qu'elle avait besoin de quelqu'un pour parler le texte en français, parce qu'elle savait qu'elle avait donc ce texte en anglais avec Benjamin et Nick. Mais elle voulait un acteur qui soit capable de le dire aussi. Donc la première chose qui m'est apparue quand j'ai rencontré Raphaël et quand j'ai pris contact avec Nick, et c'est là où on a tout de suite connecté, où on s'est bien entendu, c'était qu'il était impossible pour moi d'arriver en tant que simple traducteur. Mm-hmm. Parce que je trouvais que c'était, pas d'un point de vue égocentrique, mais d'un point de vue justement, je trouvais que ça servirait pas du tout l'histoire de Nick d'avoir quelqu'un qui traduit simplement à côté et qui lit de manière assez banale. Donc ce qui s'est passé, c'est que c'était le premier contact que j'ai eu avec l'écriture de Nick, était The Noise from the Streets. Après, j'ai eu la chance de recevoir ses livres et donc de me plonger un peu plus dans toutes ces histoires qui m'ont toutes passionné. Et ce qui m'a tout de suite interpellé, c'était, surtout quand j'ai entendu Nick lire le texte lui-même, c'était de trouver une énergie différente et de voir que dans ses mémoires, dans ses souvenirs qu'il avait de jeunesse, il y avait une énergie, une certaine nervosité, et donc quelque chose dans l'écriture et qui en tout cas pouvait se traduire dans une forme de jeu, mm-hmm, pour essayer de rendre la performance de demain soir qu'on n'a pas encore faite.
Si.
Voilà, qu'on aura faite un peu plus, le plus vivant possible. Donc là, on tâtonne, effectivement, vous nous prenez un peu au dépourvu. La première fois qu'on a commencé à lire, c'était cet après-midi. Mais ce qui est passionnant dans l'écriture de Nick, c'est qu'elle elle transmet une énergie qui, moi, forcément, en tant qu'acteur, de toute façon, je pourrais pas lire banalement le plus simplement possible. Ça sera compliqué parce que il y a une énergie qui transpire dans le texte et qui se transmet assez facilement. Donc, on va essayer de régler ça ensemble. Quoi. Voilà.
Vous vouliez ajouter quelque chose pour qu'on comprenne bien la performance, Nick Cohn?
The key to this is that with the noise, given the idea that we have, is
la clé de compréhension, c'est celle-ci. Ça devient un voyage à rebours.
Today,
on part d'aujourd'hui et on remonte jusqu'à la première fois à Derry, où je me suis rendu dans le quartier catholique quand j'étais gamin. Donc c'est un voyage qui part de maintenant, j'ai 68 ans, et on remonte dans le temps jusqu'à l'âge de 11 ans. C'est un voyage personnel, évidemment, mais c'est également le voyage de la musique de la rue, le voyage du style, de la mode, de l'attitude, de l'humeur sur 50 ans.
On vous écoute.
1979. I wasn't famous for long. All I had was one moment in the 1970s, the late 1970s, after a story I'd written was filmed as Saturday Night Fever. The next time I came to London, I was in all the papers and on TV. Strangers recognized me on the street. One night I took a taxi home from a club.
After a minute, the driver said, "You're Nick Cohn, right? The Fever Man." "Yes." "That film changed my life." This surprised me. He was a chubby man, shabbily dressed, by no means young, hardly a guy I'd picture at the disco. He drove in silence for a while, then he said, "If you've got a spare minute, there's something I'd like to show you." "What is it?" "If I told you what it is, it would ruin the surprise." "Okay," I thought, "what's to lose?"
1979. Je ne suis pas resté célèbre très longtemps. Tout ce que j'ai eu, c'est un moment, vers la fin des années 70, après qu'une histoire que j'avais écrite soit tournée en film sous le nom de Saturday Night Fever. Quand je suis revenu sur Londres, j'étais dans tous les journaux et à la télé. Des gens me reconnaissaient dans la rue. Une nuit, je pris un taxi pour rentrer d'un club. Après une minute, le conducteur dit « Vous êtes Nick Cohn, pas vrai ? L'homme de la fièvre ?»
Oui.
Ce film a changé ma vie. Ça m'a surpris. C'était un homme rondouillet, pauvrement habillé, pas jeune pour un sou. Difficilement un mec que je pouvais imaginer dans une boîte de nuit. Il conduisit en silence pendant un moment, puis il dit « Si vous avez une petite minute, il y a quelque chose que j'aimerais vous montrer. »
« C'est quoi ?»
« Si je vous le disais, je serais ruiné. »
« Ok. »
J'ai pensé « Qu'est-ce que j'ai à perdre ?»
We took a detour through streets I didn't recognize and finally pulled up outside a brick Methodist chapel. The taxi driver, whose name was Lenny, led me along a path that skirted the side of the chapel and in through a back door. Inside was an empty space. No pews, no pulpit. Obviously it was no longer in use for worship. Not worship of God, anyhow. But worship comes in many forms. A second man appeared, much younger and slimmer than Lenny, Terence. Lenny told him who I was, that I was responsible for Fever, and wanted to see what they had to show me. Terence looked doubtful. "Are you sure?" "Trust me." The two of them went off to another room, left me in the cold, damp chapel, feeling I was mad to be here. What on earth had possessed me when by now I could have been snug in bed with an armful of warm girl? Then the ceiling fell in. Oh no, it didn't fall in, it split in two. And through the gap, a disco ball came into view. Strobe lights started to flash and whirl, and in the doorway to the next room, suddenly, John Travolta in his white polyester suit, striking his famous thunderbolt pose. Travolta? Not quite. On second glance, I saw it was really Terence. "How deep is your love?" began to play.
On prend un détour à travers des rues que je ne connaissais pas et on se gare finalement en face d'une chapelle méthodiste en briques. Le chauffeur de taxi, dont le nom était Lenny, me conduit sur un chemin qui longeait les rebords de la chapelle et menait à une porte de service derrière. À l'intérieur se trouve un espace vide. Pas de banc d'église, pas de clergé. Plus
plutôt évident que ce lieu n'accueille plus de pratiques religieuses. Plus d'adoration de Dieu, en tout cas. Mais l'adoration peut prendre plusieurs formes. Un deuxième homme apparut, bien plus jeune et mince que Lenny, Terence. Lenny lui dit qui je suis, que je suis responsable pour la fièvre et que je veux voir ce qu'ils ont à me montrer. Terence paraît suspicieux. T'es sûr ? Fais-moi confiance, dit Lenny. Ces deux-là disparaissent dans une autre pièce, me laissant seul dans le froid, l'humidité de la chapelle, me sentant complètement taré d'être là. Qu'est-ce qui, sur la terre, m'avait possédé pour céder ? Quand au même moment, je pouvais déjà être dans mon lit douillet, les bras remplis de filles toutes chaudes. Puis là, le plafond s'effondre. Ou non, il ne s'effondra pas vraiment. Il s'ouvrit en deux et à travers l'espace, une boule disco apparut. Des spots stromboscopiques se mirent à flasher et tournoyer. Et dans l'antre de la porte de la pièce d'à côté, soudainement, le voilà. John Travolta, dans son costume en polyester blanc, envoyant sa fameuse pose de l'éclair. Travolta ? Pas exactement. Au deuxième coup d'œil, je vis bien que c'était vraiment Terence. How Deep Is Your Love se mit à jouer.
Voilà, donc Benjamin Diamond, Stanley Weber et Nick Cohn, cette performance, cette forme de répétition après coup, puisque ceux qui sont passés par le festival Livre et Musique à Deauville ont pu vous voir, mais comme on a enregistré en amont cette émission, avant le festival, c'était une forme de répétition. Il faut dire une chose qu'on a peu dite pendant cette émission, Nick Cohn, c'est que vous avez écrit l'article qui a inspiré Saturday Night Fever, c'est ce que vous racontez dans ce texte-là, et ça, ce n'est pas faux, c'est même la totale réalité. Ce qui était faux, c'est que ce n'était pas un reportage, mais c'était une fiction, et ça vous ne l'aviez pas dit à l'époque et vous l'avez dit depuis et ça a inspiré le film et donc a eu pour conséquence cette célébrité dont vous parlez dans ce texte-là. Tout à l'heure, je parlais de grands blocs intenses, ce que dit Nick Cohn de vous, Benjamin Diamond. Ce soir, vous étiez tous les trois voilà, à ce moment-là dans cette intensité, la musique, c'était vous. Et puis aussi, un peu chef d'orchestre, hein, vous voyez, vous bougiez beaucoup les bras. Merci beaucoup encore une fois à tous les trois d'être passés par ici. Benjamin Diamond, un nouvel EP bientôt, sans titre pour le moment.
Si, Assassin, Assassin, ah, ça oui. Sort le 5 mai.
Voilà, vous avez trouvé le titre. Merci Stanley Weber, merci Nick Cohn, merci beaucoup. Merci à Raphaël Rivière aussi qui a eu l'idée de cette émission. L'atelier du son est préparé et coordonné par Inès Debrine et réalisé par Véronique Lamandour. Au son ce soir, c'était Jean Frédérix. La traduction était signée Xavier Combes. Bonne suite de nuit à vous sur France Culture.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 9 mai 2014.